Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans Les grandes voix. Bonjour à Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et welcome back Gérard Carrérou. Bonjour à vous quatre.
Bonjour. Bonjour.
Thank you very much.
Au programme de cette première émission de la saison, aurons-nous tous de l'électricité et du gaz cet hiver? Le président Macron, après avoir annoncé la fin de l'abondance la semaine dernière, a réuni ses ministres pour un conseil de défense énergétique. Faut-il s'attendre à des coupures d'électricité? Comme l'a annoncé Madame Borne, la menace d'une coupure totale de gaz russe peut-elle amputer la croissance économique? Comme l'a dit Monsieur le maire, c'est notre premier sujet. L'expulsion ratée de l'imam Hassan Iqiyoussen peut-elle coûter cher à Gérald Darmanin? Pour sa défense, le ministre de l'Intérieur se réjouit que l'islam radical soit en fuite. Mais en réalité, beaucoup y voient là un camouflet pour le premier flic de France. En plus de tout cela, cet après-midi, Perspective musulmane appelle à manifester en soutien à l'imam. Deuxième sujet brûlant de cette première émission. Ces questions d'expulsion, d'immigration, de visa consulaire, il en a été question bien sûr lors de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie, le chef de l'État qui a souhaité lors de la conférence des ambassadeurs que la diplomatie française puisse redevenir une puissance d'équilibre, plus agile, plus experte, plus forte. Mais quel bilan de notre diplomatie, on en parle. Enfin, l'artisan de la perestroïka et de la guerre froide, la fin de la guerre froide, Mikhaïl Gorbatchev, inhumé aujourd'hui à Moscou, même si les Occidentaux gardent de lui l'image du prix Nobel de la paix 1990, c'est toute une autre histoire en Russie où son bilan est beaucoup plus mitigé. Alors que retenir du legs de Gorbatchev? Réponse en fin d'émission. Vous avez le programme, les grandes voix, c'est parti. 15h hier après-midi, Agnès Pannier-Runacher apparaît au pupitre, vêtue de rouge, la couleur de l'énergie. Fallait-il voir un signe? La ministre de la Transition énergétique donne deux infos. D'abord, des stocks remplis à 92%. Ça veut dire que c'est pas davantage qu'en début de semaine. Et puis, on va y revenir. L'engagement d'EDF de remettre en route les 32 réacteurs à l'arrêt. Au final, cette question, avait-on besoin d'un conseil de défense avec les ténors du gouvernement, pas tous, pour faire le point sur nos ressources avant l'hiver, sachant que finalement, tout dépendra de la situation météorologique.
Écoutez, avouez qu'on ne peut pas s'en tenir uniquement à cette analyse, parce que sinon, ils feraient tous bien de croiser les bras et d'attendre.
J'ai dit ça parce que plusieurs ministres sont apparus dans les médias la semaine dernière en disant, vous savez, ça dépend si on a un hiver rude et dans ce cas-là, il y aura du rationnement.
Sûrement,
et
mais
des
ça
coupures,
peut pas être une prévision.
Ou alors tout va bien et dans ce cas-là, on a suffisamment à 92%.
Voilà. Oui, ça c'est sûr, mais ça ne suffit pas.
Les ministres.
Charles Villeneuve.
Parce que l'énergie, que ce soit le pétrole ou le gaz, a toujours relevé de la politique internationale, puisqu'il affecte la sécurité des États. Il faut se rappeler la guerre du Kippour entre l'Égypte et Israël en 1973 n'avait été que le prétexte à une hausse des prix qui allait atteindre 130%. Et c'était la même chose en 1980 à propos de la guerre Irak-Iran. Donc ça se justifie absolument parce que ça affecte, je me répète, la sécurité des États.
Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas Mme Colonna, ministre des Affaires étrangères, M. Le Cornu, ministre des Armées? Il y a quand même une guerre en Ukraine et beaucoup de choses dépendent de là. Michel Cotard.
Ça, quand même, parce qu'il y avait une place pour les experts, il y a une place. Peut-être, effectivement, Colonna devait être là, j'en sais rien, je ne suis pas sûr. Mais enfin, ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'effectivement, ce Conseil de défense, ça reproduit à peu près identiquement le Conseil de défense sanitaire. Le Conseil sanitaire, c'est-à-dire, c'est le même principe. Il y a d'abord des gens bien concernés qui discutent, et puis après, on dit à la population, on vous tiendra au courant. Et là, apparemment, ce qui est intervenu, c'est quand même qu'Elisabeth Borne a dit, on passera devant le Parlement et on soumettra une loi au Parlement. Mais je ne vois pas comment on peut faire autrement qu'effectivement se réunir à plusieurs concernés à différents niveaux pour évoquer ce problème. On ne peut pas se dire, ah bah s'il fait beau, de toute façon, il faisait chaud en septembre, donc il fait chaud en septembre, donc il n'y a pas de problème. Oui, c'est pas possible.
Catherine
ça.
Moi, je pense que c'est pas ça le problème. Cette réunion, ce conseil de défense, disait aux Français le contraire de ce que voulait dire aux Français le contraire de ce qu'avait prédit le président, c'est-à-dire la fin de l'abondance, puisque Madame Pannier-Runacher a dit que les 32 réacteurs seront redémarrés par l'hiver et donc il y aurait ce qu'il fallait. Alors quand on regarde,
je suis pas sûr qu'elle ait donné un facteur temps, c'est ça.
Redémarrer pour l'hiver. Redémarrer pour l'hiver, c'est sa phrase. Bon, et que nos stocks étaient déjà à 92%. Mais quand on interroge les responsables d'EDF, ils disent que, bien sûr, on va faire le maximum. et que eux ils entendent que on va faire le plus possible. Donc elles vont peu à peu être remises à niveau.
Ah oui.
Bon, ben parce que le président d'EDF l'a très bien expliqué. Une loi a été votée au Parlement en 2019 qui obligeait la fermeture de 12 centrales. Donc EDF était obligé depuis 2019 à se préparer à fermer les centrales, c'est-à-dire à se séparer de personnel compétent. Donc ça a commencé. Donc il faut les faire revenir. Et les centrales, il faut les examiner pour les relancer. Donc c'est ça. Et aujourd'hui, on leur demande d'aller vite, c'est-à-dire ils ne respectent pas la loi, qui est toujours en vigueur, la loi de 2019. Et autre chose, Madame Borne, qui a été la première à dire qu'il fallait fermer les centrales, quand on le dit, on le fait, elle a été, et qui maintenant veut que EDF, évidemment, redémarre et aille vite, dit qu'il faut que EDF redémarre pour éviter de redémarrer les centrales à charbon. Sauf que les centrales à charbon remarchent. La centrale de Cordemais, qui appartient à EDF, qui est près de Saint-Nazaire, et qui vraiment, et la Bretagne a besoin d'électricité, remarche, et celle de Saint-Avold, qui est en Moselle, qui appartient au milliardaire tchèque Krajinski, qui a été fermée en mars, sera réouverte ce mois-ci.
Gérard Carrero.
Moi, il y a un certain nombre de choses qui me gênent dans l'attitude gouvernementale sur ce problème de l'énergie. Premièrement, d'abord, effectivement, une espèce de tactique de souffler un jour le chaud et le lendemain le froid. On parle un jour de rationnement et puis après, ou de délestage, de coupure.
On a plus entendu parler de rationnement.
Des mots qui sont très forts, qui entrent dans la tête de tous les gens, de toutes les hommes, de toutes les femmes qui sont là dans leur cuisine ou dans leur salon, se demandant comment ils vont passer l'hiver. Donc, c'est pas bien. Déjà, premièrement, une certaine forme d'incohérence. Deuxièmement, je trouve qu'il y a, sur le plan institutionnel, et Catherine l'a esquissé, je voudrais appuyer là-dessus, il y a une extension vraiment pernicieuse du concept de conseil de défense. Le conseil de défense, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le conseil de défense, ça traite effectivement de la guerre et de tout ce qui tourne autour, et de la diplomatie. C'était comme ça qu'on concevait le Conseil. Là, après, on a fait. Alors, on a dit, oui, il y a la guerre avec le Covid.
Oui.
On a fait la guerre au Covid.
Nous sommes en guerre.
Nous sommes en guerre. Et alors, on a multiplié les concepts, les conseils de défense. Après, on nous avait dit déjà un peu avant, il y a la guerre contre le terrorisme. Ça, c'était les premiers ministres précédents, à l'époque Hollande, avec Valls. On fait la guerre contre le terrorisme, donc il faut aussi utiliser le Conseil. Et maintenant, on nous sort la guerre de l'énergie, qui est le résultat, effectivement, peut-être, d'une certaine manière, de la guerre en Ukraine, mais pas seulement. Et on nous dit, là, il faut des conseils. Alors, c'est pernicieux, et ça a des conséquences. C'est-à-dire qu'on contourne, et je m'arrête là, parce que je pense qu'il faut qu'on approfondisse ça, on contourne complètement le système parlementaire. Parce que même si on dit après, il y aura un débat au Parlement, ça sera, il y aura un vote, etc., c'est du blabla. Ce qui compte, c'est au moment où on prend les décisions, que ce soit avec une large exposition et une transparence vis-à-vis des Français.
Mais rappelons que le Parlement, 2019, Catherine. A voté presque à une très très large majorité la fermeture du nucléaire. Tout le monde a eu tort.
Jacques Serret a interrogé Mme Borne cette semaine en disant bah alors vous avez fermé Fessenheim, qu'est-ce qui se passe?
Le Parlement dont vous parlez avait voté en grande majorité, au-delà de la majorité, la fermeture du nucléaire. Tout le monde était d'accord à l'époque.
Oui, mais n'empêche, le Parlement est souverain dans ses votes. Je dis qu'il n'est pas sain dans une démocratie, de transformer...
Monsieur Villeneuve, s'il vous plaît.
Non, mais il y a deux remarques à faire. Premièrement, vous avez posé la question sur l'absence du ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Défense. À partir du moment où les énergies dépendent de la politique internationale, il était évident que Catherine Colonna et Le Cornu, le ministre de la Défense, devaient être là, puisqu'il s'agit évidemment de du gaz russe et des conséquences de la guerre en Ukraine. Bon. Et deuxième chose, au fond, ce Conseil de défense, quand vous voyez les participants, et notamment la Première ministre, ce qui est normal d'ailleurs, tout de suite, il vous saute à l'esprit que la Première ministre, on oublie ses faits d'armes. En 2014, elle était la directrice de cabinet de Ségolène Royal. Elle a participé à l'élaboration de la loi de la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée en 2015, exigeant l'arrêt de 14 réacteurs. En 2020, elle s'est félicitée de l'arrêt de Fessenheim alors qu'elle était ministre de l'Environnement. J'arrête là. Mais on paie aujourd'hui l'inconséquence des responsables politiques qui ont troqué l'atome sous la pression d'un groupe politique idéologisé au détriment du réel.
Oui.
C'est ça. Et aujourd'hui, c'est le retour de l'atome.
Vous l'avez entendu cette semaine quand elle répond à Jacques Soeur d'Europe 1. Elle dit c'est une autre époque.
Oui, voilà. C'est vrai. Mais... Ah bah, elle a raison. Bah... Parce que je vous rappelle quand même que. Après...
Elle a raison.
Elle a raison. Ah, elle a raison, c'est
attendez,
une autre
époque. Mais laissez parler Michel Cotta. Pourquoi
non,
est-ce qu'elle
a
raison?
Non, mais c'est une autre époque. On a tout. Enfin, effectivement, le Parlement a voté, mais à la majorité et plus que la majorité. C'était dans l'esprit du temps. Au fond,
il y avait la pression des écologistes.
Il y avait Tchernobyl. Il y avait non, mais il y avait aussi oui, pas oui, seulement. Oui, oui. Il y avait naturellement la pression des Verts.
Il y avait la centrale japonaise aussi qui avait explosé.
Il y avait Tchernobyl. Il y avait effectivement l'obsolescence de Fessenheim. Bon, maintenant,
Madame Merkel, l'obsolescence a démontré.
Il y avait surtout la pression allemande.
Oui.
Parce que c'est c'est plus encore. On dit les écologistes. C'est vrai.
Mais il faut pas.
On a donné des gages aux écologistes. Mais ce qui est le plus important, c'est la dérive sous la pression diplomatique allemande. Les Allemands
et de Mme Merkel.
Et de Mme Merkel directement.
Encore.
C'est ça. Et il y a
évident,
eu là, effectivement.
Nous avons tous beaucoup admiré Mme Merkel,
tout le concept,
mais en
pas
fait.
Moi.
Mais tout le concept a été coloré.
Bon, les amis,
alors,
c'est la première de la saison.
Je voudrais finir sur. Simplement.
Non.
C'est vrai qu'il y a eu une époque où le nucléaire, à tort, le nucléaire civil, finalement, beaucoup plus que le nucléaire militaire, a fait peur. Et a fait peur à plus de gens, voire l'Assemblée, a fait peur à plus de gens qu'au Vert.
Mais on
nous avons, en plus, on a tous été d'accord là-dessus. Nous étions tous, plutôt des nucléaires.
Alors, comme vous n'êtes pas d'accord, on va marquer une première pause et on reparle de ça juste après. Tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1. 10h, 11h. Pierre de Villeneuve.
Tous au complet, les grandes voix avec Gérard Carrère ou Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. On parlait des centrales nucléaires, du nucléaire en général. Catherine Ney, quand Mme Borne parle d'une autre époque, il y a une autre époque, mais qui en appelle une nouvelle et celle d'aujourd'hui. C'est l'attitude des Japonais avec Fukushima.
Ben oui, Fukushima, ça a été le grand qui a fait peur à tout le monde, alors que ce n'est pas un accident nucléaire.
Absolument.
C'est un accident maritime.
C'est un tsunami.
C'est un tsunami avec les conséquences du tsunami.
Et bien aujourd'hui.
Et justement, la centrale de Fukushima a formidablement résisté au tsunami.
Alors, Catherine.
Et bien aujourd'hui, les Japonais reconstruisent des centrales nucléaires parce que c'est la réponse à la guerre en Ukraine, vous voyez. Donc, tout a changé, c'est vrai. Mais tout de même, au moment où on disait le monde a changé, bien, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, c'est que le nucléaire, dans d'autres pays, continuait à prospérer. Et nous, on a aidé les Russes, on a aidé les Chinois, pardon, les gens d'EDF ont formé des Chinois pour construire des centrales nucléaires. Ils ont construit des centrales nucléaires. Ils sont aujourd'hui les premiers exportateurs de centrales nucléaires parce qu'ils ont su adapter la demande à l'offre à la demande, c'est-à-dire des petites centrales et non pas nos grands EPR qui ne marchent toujours pas.
Ça marche en Chine, mais qui font moins gros quand même.
Emmanuel Macron a lancé la construction de mini-centrales.
Parce qu'ils ont la main-d'œuvre que nous avons, nous, délaissée.
Et qu'on va aller chercher en Amérique.
Vous avez la différence entre la Chine et nous.
On va chercher en Amérique les techniciens.
D'une certaine manière, on a tout faux.
Oui, alors je voudrais rester une seconde sur le plan institutionnel, parce que je pense que c'est très important, au-delà de l'affaire de l'énergie qui est considérable. J'ai l'impression quand même que ce président de la République, réélu et bien réélu, a un problème quelque part avec l'exercice de la démocratie parlementaire. Et j'en prends pour preuve effectivement l'abus, parce qu'on peut parler d'un abus des conseils de défense, mais je vois aussi pointer, et c'est aussi un des sujets de la semaine prochaine, on en parlera sûrement, c'est l'histoire de l'installation de ce fameux CNR, Conseil National de la Refondation. C'est-à-dire que peu à peu, on essaye de contourner l'exercice, la démocratie, parce que la France, c'est un régime semi-présidentiel. Et parlementaire et présidentielle. On essaye de contourner la démocratie parlementaire. À un moment, je finis là-dessus, à un moment où jamais le Parlement, depuis 30 ans, n'a été aussi représentatif de la France profonde.
C'est
la première fois, sans proportionnel, sans rien, que la France a voté pour un Parlement qui lui ressemble. Et là, on essaye par tous les moyens de contourner l'exercice démocratique à l'anglaise de ce Parlement.
Le moyen, quand on a une
Michel
majorité
Cotta.
Relative...
Oui, mais y a pas
la majorité relative oblige forcément à trouver des compromis. Alors, ceci étant, moi, je trouve
que c'est inédit comme compromis de mettre une autre assemblée c'est le peuple qui va.
Je veux dire, moi, j'avais été très choqué. Vous avez,
Pas dans le canton d'Appenzell.
J'avais été très
choqué.
Une seconde, si je peux parler.
Pardon.
Moi, j'avais été très choqué au moment où Macron a annoncé cette création, parce que c'était juste avant les élections, et que je me suis dit, alors vraiment, on est en plein dans les élections jusqu'au cou, qu'est-ce qu'on va nous annoncer une autre assemblée? Bon, voilà, je ne sais pas à quoi elle servira, ça ne peut pas être mauvais sur le dialogue, mais de toute façon, je remarque que la moitié au moins des partenaires n'est pas là. Donc ça va sûrement poser un problème assez vite.
Surtout qu'on a déjà Édouard Philippe.
Le CESE qui déjà est une assemblée. Bon,
voilà, enfin, plus on parle, mieux ça vaut. On peut se dire que plus on parle, mieux ça vaut.
Oui,
mais
ça, dernière remarque,
ça s'appelle la parlotte.
Sur l'atome qui redevient central, les experts, notamment de l'accord de Paris, sur évidemment l'énergie décarbonée, disent que pour respecter les objectifs de la neutralité de carbone, ils estiment que le nombre de réacteurs doit doubler sur la planète d'ici à 2050. Regardez l'ironie incroyable dans laquelle nous nous retrouvons alors que nous avons recommandé les politiques, et notamment qui siègent à ce Conseil de défense, de fermer un maximum de réacteurs de la chaîne de ce qui était la plus grande chaîne de réacteurs nucléaires dans le monde occidental.
Qu'est-ce qu'on dit de Zaporijjia, d'ailleurs, puisqu'on parle de centrales nucléaires avec l'AIEA, les experts?
Justement, moi, je me disais que ça compte beaucoup aussi dans l'esprit collectif des gens. Non, mais ça compte beaucoup dans l'esprit collectif des gens. Maintenant, je crois que tout le monde a compris que sans nucléaire, on ne s'en sortait pas sur l'électricité, donc tout le monde va être pour le nucléaire. Il reste que la menace entretenu autour de ce grand site nucléaire, on se dit quand même, on ne peut pas empêcher qu'un certain nombre de Français se disent « Oui, s'il y en a partout, et s'il y a des guerres, on aura partout des familles. »
La menace, il me semble, a été quand même, Michel, je ne sais pas si tu es d'accord, mais elle a quand même été largement, me semble-t-il, surévaluée. J'ai bien suivi comme vous. Si. Je veux dire par là qu'on voit bien où elle est, on l'a expliqué partout, etc. On voit bien comment elle est actuellement sous le contrôle russe, tout en étant actionné par les Ukrainiens, etc. Mais il n'y a pas eu de bombardement. Il y a eu, vous savez, aujourd'hui...
Bon, c'est pas passé loin. Hein.
Mais je crois que si vraiment, je ne sais pas, on peut dire tout ce qu'on veut des Russes, y compris que ce sont les pires artilleurs de la Terre, j'en sais rien. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, avec les moyens d'artillerie et les missiles, si on veut vraiment taper une centrale, un des éléments fondamentaux de la centrale, on le fait. Je pense que tout ça, il y a eu beaucoup de gesticulations de la part des Russes, mais surtout aussi maintenant de la part des Ukrainiens. Voilà.
Non, mais je suis d'accord avec Gérard. La précision des canons, quels qu'ils soient, que ce soit nos Césars, que ce soit les obusiers fournis par les Américains, et notamment qui portent maintenant à 300 km les nouveaux missiles mobiles, sont d'une précision extrême. Mais vraiment. Mais il n'empêche que cette centrale, qui est une très grosse centrale, est en zone de combat.
Oui.
Et donc, en zone de combat, vous ne contrôlez pas absolument tout. Absolument. Les Russes, dont on connaît l'empire du mensonge, ne nous donneront jamais d'informations précises. Les Ukrainiens n'en ont pas les moyens. Eux aussi, de toute façon, font de l'information, dirigée, bien sûr. Puisque la guerre des médias, la guerre de l'information en matière de guerre fait partie des armes de guerre.
La propagande fait partie de la guerre.
Et donc, alors, est-ce que l'agence, justement, internationale peut, je pense qu'il y a un absent dans cette affaire qui peut exiger que les militaires quittent la centrale, c'est l'ONU. Et je m'étonne que l'ONU soit complètement absente de cette affaire.
Et justement,
mais ce qui est quand même dangereux, c'est que les Russes font de la centrale un réservoir pour cacher leurs armes, parce qu'ils se disent les Ukrainiens n'oseront pas. Bon, mais donc il y a des camions chargés de missiles, il y a des et c'est là où il y a un dérapage possible. Je veux dire, faire exploser des choses.
Il y a toujours un dérapage, c'est vrai.
Il faut pas non plus exagérer. Le fait que, soi-disant, c'est un dépôt d'armement et d'artillerie. Il y a 500 militaires russes
qui sont autour.
Mais il y a des camions, bien sûr. Il y a des camions de munitions, il y a des réserves d'armes.
Ils mettent leurs munitions.
Oui, mais enfin, ils ne mettent pas les obus de 155.
29
de l'artillerie russe.
Et dans un instant, on parle de l'imam Iqiyoussen. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Avec Michel Cotta, Catherine Ney, Gérard Carrou et Charles Villeneuve, c'est bien sûr l'un des sujets principaux de cette semaine. On va beaucoup en parler encore aujourd'hui puisqu'une manifestation de soutien à l'imam Hassen Iqiyoussen est organisée cet après-midi place de la République à Paris. Manif autorisée, déposée en préfecture. Europe 1 vous donnait l'info hier soir. Et donc à ce stade, pas interdite. Depuis la fuite de l'imam, Gérald Darmanin est pointé du doigt. Le ministre de l'Intérieur se défend en disant qu'au contraire, il a fait fuir l'islamisme radical, qu'il en a expulsé 734 autres comme l'imam Iqiyoussen. Que faut-il penser de tout cela, Gérard Carrou ?
D'abord, il faut penser, je crois qu'il ne faut pas jeter toutes les pierres à la fois à Gérald Darmanin. Je l'ai interviewé il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de parler avec lui. Il est parti, vous savez, la politique, c'est tout un art d'exécution. Il y a ce qu'on veut faire et puis il y a comment on y arrive ou comment on n'y arrive pas. Et puis, on peut dire aussi que l'enfer
c'est
politique,
ce que disait Napoléon.
Oui, l'enfer politique est pavé des meilleures intentions. Je crois que dans l'intention, c'était une bonne initiative. Vouloir expulser de France un imam qu'on aurait dû expulser il y a 15 ans, déjà, pour ses propos, je n'y reviens pas, tout le monde maintenant les a entendus plus ou moins, c'était une bonne chose. Il y a deux obstacles à ça, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout dans l'exécution. Je pense qu'il y a eu des erreurs, notamment le jour où on savait que le Conseil d'État allait se prononcer, ou les jours qui précédaient, on aurait dû mettre en surveillance étroite, effectivement, l'individu en question, de telle manière de le choper à la sortie du Conseil d'État, enfin, je veux dire, quand le Conseil d'État avait rendu, le choper et pouvoir effectivement procéder. Là, on s'est humilié nous-mêmes, il nous a fait un pied de nez, il est parti, là-dessus, les Marocains ont rajouté leur propre coup de pied de l'âne. Donc, je lui donnerai des circonstances atténuantes à Darmanin. Parce qu'effectivement, il est parti d'une bonne intention. Et si on ne fait rien... Alors, il y a un deuxième aspect, celui-là, je ne le développe pas, parce qu'il est important, mais on en reparlera, c'est l'état de droit. Il y a un moment donné, moi j'en ai un peu comme ça, de l'état de droit. Parce qu'il y a l'état de droit, mais il y a le droit de l'État. Et le droit de l'État, c'est d'abord la souveraineté et la sécurité. Et à partir du moment où on a empilé au fil des années une farandole, c'est comme la farandole des desserts dans le midi, la farandole de textes, etc., de protection, sous prétexte de protéger la vie privée, les enfants, le regroupement, les machins, les trucs, on ne peut plus expulser en France un étranger indésirable. Et c'est malheureusement ce à quoi s'est exposé Darmanin.
Michel Cotta.
Moi, je trouve aussi que ça part d'un très bon... d'un très bon sentiment pour un ministère de l'Intérieur, d'évacuer quelqu'un qui dit ce qu'il dit. Il y a eu quand même le phénomène du tribunal administratif. C'est quand même, là je ne sais pas si on rejoint l'état de droit, mais effectivement, voir une décision de ce genre annulée par un tribunal administratif, puis repassant au Conseil d'État, bon, mais je trouve quand même que le départ ridiculise un peu toute l'affaire. Voilà. Je ne jetterai pas toutes les pierres à Darmanin. Je trouve que quand on fait quelque chose, on va jusqu'au bout. Et que, alors, il se défend très bien. Et je l'ai regardé hier, très libre, très souriant. Très
serein.
Il reste que, pour la majorité des gens, c'est quand même vraiment ridicule que le type soit parti sans être surveillé un peu
Catherine
avant.
Mais voilà. C'est pas une raison pour lui faire payer deux fois le Stade de France. Parce qu'il y a un peu l'amalgame avec le Stade de France.
Mais moi, je trouve qu'il a réussi. Il voulait expulser. Eh ben, il s'est expulsé lui-même. Il est parti. Pourquoi? On va pas le chercher. On va pas aller demander aux Belges, puisqu'il doit être
à Molenbeek,
rapatrié pour qu'on puisse l'expulser, puisque maintenant, les Marocains ne le veulent plus. Il est parti, il n'a plus le droit de venir en France. Eh bien, il ne revient plus en France, il est parti.
À condition qu'il ne soit pas en France. Et ça, on n'en sait rien.
Peut-être qu'on le retrouvera. En tous les cas, il ne peut plus parler. Quoi.
Cette affaire, c'est un véritable succès. C'est un succès. Parce que ce qui compte et ce qui reste, c'est l'avis du Conseil d'État qui a créé une jurisprudence. Et le double langage des Tariq Ramadan, de tous ces imams islamisés, salafisés, etc., c'est fini. C'est terminé, le double langage. Soi-disant, on est là pour essayer de lutter contre les lois de la République qui interdisent ceci ou cela. Et puis derrière ça, évidemment, on essaie d'islamiser au mauvais sens du terme. C'est ce que font ces imams-là. Ces imams-là, ce double langage, ils ne pourront plus le tenir. Et parce que la loi, justement, distingue et cesser l'avis du Conseil d'État. Alors évidemment, c'est un camouflé, l'histoire de... Mais moi, je pense, on découvrira d'ailleurs qu'il était parti bien avant que le Conseil d'État
début du mois.
Se réunisse. Et les Marocains qui ont retiré justement le fait... Ne vous inquiétez pas, c'est eux qui nous le ramèneront s'il est toujours
en
Belgique.
Non, non, je te dis, pas du tout.
Catherine.
Je crois qu'il y a une affaire dans l'affaire, c'est avec les Marocains. La France est vraiment battue bec et ongles pour que le 1er août, les Marocains disent on va le récupérer. Voilà, bon, ça, ils l'ont obtenu. Et puis, ce que n'a pas supporté le roi, c'est que Macron... le président Macron, sans le lui dire, soit parti dans ce voyage avec les Algériens et fasse vraiment ami avec les Algériens, avec lesquels il est en bagarre en ce moment au sujet du
Sahara occidental.
Et ce qui est très intéressant, c'est de relire le discours du roi le 22 à la jeunesse, le 20 août, où il a parlé de la marocanité du Sahara. Et il a vraiment remercié les États-Unis, l'Allemagne, tous les pays qui sont d'accord avec lui. Et la France n'était pas citée. Et il reproche à Emmanuel Macron de ne pas le soutenir assez. Et du coup, il y a eu la décision en disant, puisque c'est ça, eh bien, on ne vous le reprendra pas. Et ça, c'est une réponse, c'est vraiment un envoi au président pour lui dire, avec l'Algérie, vous en faites trop. Et quand le président a dit « Oh, mais j'irai au Maroc », il s'est invité lui-même, il n'est pas invité au Maroc, le roi ne l'a pas invité. Donc je pense qu'avec les Marocains en ce moment, les rapports, Emmanuel Macron devrait, qui veut se réunir avec tout le monde, il devrait...
J'ai une question pour Charles, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez à juste titre dit que c'était un succès pour la France parce qu'il y a eu cette décision du Conseil d'État, mais pourquoi est-ce que dans ce cas-là on ne cloute pas jusqu'au bout en interdisant cette manifestation aujourd'hui à Paris ?
Je crois que c'est la meilleure manière... que tous ceux qui vont y participer tomberont le masque. Oui. Et pour les services de renseignement, notamment intérieur du ministère de l'Intérieur, c'est une excellente occasion de faire le compte.
On verra si Mélenchon y est, par
exemple. On verra si la France insoumise est à l'origine de cette manifestation.
Voilà. Oui. Et on verra si Perspective aussi... musulmane, organisation qu'on ne connaît pas très bien.
On comptera le nombre, c'est toujours pareil. S'il y a 300 personnes qui crient contre l'islamophobie, on dira, au fond, effectivement, la République a gagné de ne pas interdire cette manifestation. C'était, regardez, ils étaient rien. S'il y a, effectivement, n'oublions quand même pas les nombres, parce que, comme disait, la loi du nombre, elle est souvent présente. S'il y avait, par malheur, je dis bien par malheur, s'il y avait 10 000 personnes ou 15 000 personnes, n'oublions pas que les islamo-gauchistes ont réuni 20 000 personnes lors d'une manifestation précédente contre l'islamophobie à Paris, où on a montré des étoiles jaunes et on a crié « Al-Akbar ». Bon, alors, on ne peut pas, attention, si je souhaite vivement qu'on ne... Alors, c'est très bien, c'est une tactique, ne pas l'interdire, dire « Regardez, de ce pays, nous sommes formidables, dans ce pays de la grande liberté, même eux... » peuvent manifester, à condition qu'ils soient quelques dizaines ou quelques centaines, s'ils deviennent des milliers, attention.
Oui, attention, Gérard, ça ne se termine pas par les attaques des commerces, des voitures brûlées, tout ça, comme à chaque
c'est
fois.
C'est la crainte.
C'est vraiment le baptême du feu de Laurent Nunez qui a succédé au préfet l'allemand.
Absolument. Oui. Non, mais qu'il y ait peu ou beaucoup, je crois qu'il fallait l'autoriser et ne pas l'interdire. Parce que même s'il y a une masse, c'est très intéressant pour nous, c'est significatif de la pénétration de l'islam.
Mais il y a la taquilla, Charles.
De l'islamisme,
Ceux qui sont d'accord, beaucoup d'entre eux, ne vont pas y aller parce qu'ils pratiquent le double langage.
Eh ben, donc il a raison d'autoriser la manifestation.
Une pause, d'accord, et dans un instant, on parle de la diplomatie française. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1. 10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Avec Michel Cotta, Catherine Deschamps-Villeneuve et Gérard Carrérou, on a effleuré la question algérienne avec ce déplacement d'Emmanuel Macron, effectivement, qui, comme l'a dit Catherine, a sans doute fâché le roi du Maroc. Le président a reçu ce jeudi à l'Élysée pour la première fois depuis 2019 pour cause de Covid les ambassadeurs de France pour une conférence sur l'état du monde, un discours de 2 heures rappelant le retour de la guerre en Europe, le désordre climatique. Charles Villeneuve, quelle est la santé de la diplomatie française ?
Écoutez, son discours, je trouve, est double. D'abord, il a confirmé que le corps diplomatique allait être dissous. Et il est quand même habitué à ce type d'éclat. Rappelons-nous le 13 juillet 2017, aux armées, lorsqu'il a cloué le bec, en quelque sorte, du chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, qui a dû partir. Et puis ensuite, les critiques contre l'État profond et les hauts fonctionnaires qui entravent les réformes. Et aujourd'hui, c'est au corps diplomatique de se faire piétiner et qui le prend assez mal. Moi, j'ai parlé avec 6 ambassadeurs de France qui ont assisté au discours. Ils prennent assez mal le fait que, finalement, le président leur a dit qu'ils étaient comme les préfets, interchangeables, alors que c'est une véritable spécialité. En tout cas, ils se considèrent comme des spécialistes. Cela étant, sur le plan de sa politique étrangère, il ne s'est pas enfermé dans la rhétorique américaine. Et ça, je trouve que c'est un point positif sur ce plan-là, c'est-à-dire qu'il allait continuer à dialoguer avec Poutine. Bien sûr, il n'a obtenu aucun résultat, mais c'est vrai que de continuer à dialoguer et essayer de forcer la porte, peut-être y arrivera-t-il. Et de la même manière, il ne s'est pas laissé enfermer par l'objectif de l'OTAN, qui dit que la Chine est un défi. Là aussi, il maintient le dialogue. Bon, sur ce plan-là, sur le plan de la politique étrangère, cette partie-là, il a reçu l'approbation de la plupart des ambassadeurs qui étaient là. Et puis, évidemment, il y a la question de l'Algérie.
Oui.
Il ne faut pas l'oublier. Or, le président français, lorsqu'il a débarqué à Alger, a été reçu par le président de la République, son homologue, Tebboune, qui est apparu avec autour de lui, en tenue d'apparat, tous les militaires qui pèsent et qui comptent. Le chef d'état-major, Shangri-La, mais aussi le patron du renseignement, le patron de la sécurité, etc. Et ça, c'est un signal indéniable. Sauf que nous ne savons pas ce que les Algériens ont obtenu. Est-ce que nous avons, en tout cas, par opposition, peut-être aussi céder, notamment sur le plan des visas. Car pour eux, ce qui est primordial, c'est le plan des visas.
Les visas consulaires. Gérard
Carreau. Oui, sur l'équilibre, le président a parlé face aux ambassadeurs de la France puissance d'équilibre. Je ne suis pas d'accord du tout, enfin, pas du tout, je suis nuancé par rapport à ce que tu as dit, Charles, là-dessus. Je considère, moi, je viens de passer quelques semaines, longues semaines en Amérique, je considère qu'on s'est beaucoup, contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure, on s'est beaucoup rapproché dans cette rupture d'équilibre des États-Unis. Je trouve que la position de la France, il y a 6 mois, quand la guerre d'Ukraine a commencé, était, et les déclarations en attestent du président de la République, était effectivement équilibrée. Bien équilibrée, acceptable, je dirais pas, pour tous ceux qui ont apprécié la diplomatie française depuis le général de Gaulle. Il me semble que cet équilibre a été peu à peu rompu. Rompu par un phénomène que d'ailleurs peut-être Macron n'a pas souhaité lui-même, mais ce qu'on appellerait la capillarité. La capillarité européenne a fait que les Européens qui se sont effectivement unis contre la Russie pour défendre l'Ukraine, peu à peu nous ont entraînés. Le mouvement global européen nous a entraînés peu ou prou à être dans le sillage de Biden et des Américains. Et ça, Macron ne l'a pas complètement rétabli dans son discours aux ambassadeurs.
Michel Cotin.
On voit bien que la position a été fluctuante. Tu as raison, au début, effectivement, Emmanuel Macron semblait tout à fait sur sa volonté de discuter avec... Bon, moyennant quoi, il s'est quand même heurté à un échec. Bon, qu'ils disent, oui, il faut continuer à discuter, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, parce qu'à un certain moment, il faudra quand même s'asseoir autour d'une table, parce qu'on ne va pas durer avec nos centrales nucléaires et nos déficits électriques toute la vie. Donc, après, effectivement, il a un peu rejoint les grandes déclarations américaines et les aides américaines, etc. Mais je trouve justement que ce discours de l'autre jour a été un bon moyen de rétablir un équilibre qui avait été rompu.
Catherine.
Voilà.
Surtout, il a expliqué aux ambassadeurs qu'il ne voulait pas laisser au seul Erdogan le soin d'être à la fois une passerelle entre les Occidentaux et la Russie. Et il voulait jouer aussi ce rôle au niveau européen.
Oui, voilà. Sauf qu'Erdogan, il n'a pas voté les sanctions. Hein, et que la France les a votés. Oui. Alors, ça désigne plus Erdogan, malheureusement.
Et il n'a pas envoyé le matériel qu'on a envoyé.
Oui, oui,
donc,
voilà,
il faut quand même faire...
Oui.
La co-belligérance, enfin, elle est quand même différente.
Je ne fais que citer son explication devant les ambassadeurs pour lesquels
absolument.
Il voulait être un... Bon. Non, il faut revenir sur l'Algérie, parce qu'il a été invité, par les Algériens à venir, mais qu'ils l'ont invité, qu'ils l'ont félicité de sa réélection. Ça veut dire que c'était les Algériens qui étaient demandeurs, alors que vraiment, les rapports s'étaient envenimés, puisqu'il parlait de rente mémorielle, que l'Algérie n'avait pas existé avant la colonisation française, enfin tout ça, et tout ça, ils étaient très heurtés. Donc, c'est qu'ils ont besoin de quelque chose. Ils recherchaient quelque chose. Et de quoi ont-ils besoin en ce moment, les Algériens? C'est comme ils ont absolument étouffé dans l'œuf le mouvement Irak, qui était ces grandes manifestations pacifiques, formidables d'ailleurs, de cette jeunesse qui a défilé mais pendant plusieurs mois. D'ailleurs, elle a dans les rues d'Alger pour demander que ça change. Elle a d'ailleurs obtenu qu'on ne fasse pas réélire Bouteflika, qui était en chaise roulante et qui était dans le formol. Bon, donc est arrivé Tebboune, qui a été choisi par les militaires, le président Tebboune. Et il a été si bien choisi par les militaires que seulement 10% des sont venus voter pour lui, des Algériens. C'est-à-dire que ce sont les militaires. Donc, les militaires, ils sentent bien qu'on ne peut pas emprisonner tout le temps les jeunes. D'ailleurs, ils en ont fait sortir 15 000 récemment. Et il faut leur donner quelque chose. Et ce qui manque, c'est les visas. Oui. Donc, ils disent, nous, ils ont besoin de cet appel d'air. Or, depuis 2018, on avait rétréci le nombre des visas de 30 000 à 10 000.
Et on vient d'en rajouter 8 000.
Et on vient d'en rajouter 8 000. Bon, donc, là, de ce point de vue, vous pouvez laisser terminer.
Ils ont été.
Et nous, on y allait pourquoi? Alors, c'est vrai sûrement que le Sahel... Bon, engage, bon, alors, les militaires, le déjeuner avec le président, avec le patron du DGSE, ça veut dire que sur le Sahel, on travaille ensemble et tout ça. Sauf que quand même, on a été chassés du Mali par les Wagner, et n'oubliez pas que les Russes sont les alliés des Russes. Mmh. Leurs militaires sont formés en Russie. Les Algériens achètent leurs armes aux Russes.
Et
donc
ça
ils sont...
explique ça. Ceci explique cela.
Ceci explique cela aussi. Bon. Oui. Et nous, qu'est-ce qu'on a obtenu? On n'en sait rien. Or, s'il y en a pétrole contre nourriture, disait-on, est-ce que là, on a visa contre gaz?
Donc, si je comprends bien, je fais un petit récap.
Oui.
Les Russes vendent des armes aux Algériens.
Oui.
Les Européens, les Français formes. N'achètent plus de gaz aux Russes. Les Français veulent du gaz aux Algériens et les Français donnent des visas aux Algériens. C'est ça?
Oui, c'est à peu près ça.
Eh ben, donc, c'est un beau casse-tête.
Pierre.
Hein. Oui, Charles.
Oui. La question qu'il faut se poser quand on a affaire aux Algériens, en permanence. C'est un rapport de force, d'abord. Bon. Et deuxièmement, quelle est la part d'opacité de la part de la camarilla militaire qui détient l'essentiel du pouvoir sur tous les plans, pas seulement militaire, pas seulement du renseignement, sur le plan économique, sur le plan politique pur. Bon, et cette part d'opacité, elle n'est pas levée. Qu'est-ce que nous avons donné contre quoi? Il y a 6 mois, tout allait mal. Et là, tout va bien.
Oui,
mais par exemple, il y a eu un dîner officiel et après, on sait qu'Emmanuel Macron a eu un tête-à-tête qui a duré jusqu'à 3h du matin avec Tebboune. Alors là, Catherine Colonna n'était pas là. Que se sont-ils dit?
Oui.
Mais comment,
c'est pas le plus important.
Le plus important,
c'est qu'avant de ce tête-à-tête qui a duré à une heure avancée, c'est que les Algériens ont fait rentrer tous les photographes internationaux pour qu'ils photographient la scène et la présence surtout de tous les généraux autour des deux chefs d'État. C'est ça le plus important. Quelle signification derrière ça?
Il y a le pouvoir algérien.
Il y a aussi des Algériens en France. Je veux dire, c'est vrai.
5 millions.
C'est vrai, 5 millions. Oui, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas, quand on est président de la République, à mon avis, ne pas tenir compte de ça et dire, comme il l'a dit, il y a une rente mémorielle et il n'y avait pas de nation algérienne avant. C'est-à-dire que les discours un peu sinusoïdaux du président sur l'Algérie, moi, je suis plutôt contente que ça se termine par un accord de principe ou évident avec les Algériens.
On verra ce qu'il en sera, parce que le communiqué final, on s'engage, mais on va faire des choses ensemble, des start-up, les métaux...
Peut-être aussi, c'est pas impossible.
Ah ben oui, mais enfin, jusqu'ici... Je veux dire, depuis 10 ans...
Jusqu'ici, tout va bien.
Les ministres français venaient signer des choses avec les ministres algériens. Il y avait signature, on allait. Puis tout d'un coup, l'homme qui devait en charger avait disparu. Et ça n'a jamais abouti depuis 10 ans.
Dans un instant,
on va voir si là, ça va changer.
Dans un instant, on parle très court, mais on aura quand même le temps d'évoquer Mikhaïl Gorbatchev. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Dernière partie des Grandes Voix avec la Russie qui enterre aujourd'hui l'artisan de la perestroïka, Mikhaïl Gorbatchev, est décédé mercredi à l'âge de 91 ans. Les hommages sont nombreux côté occidental. Par contre, c'est pas exactement la même musique du côté russe, Gérard Carrérou.
Vous savez, quand on pense à Gorbatchev, moi je pense au grand livre de Gibbon, l'historien anglais, sur la grandeur et la chute de l'Empire romain. Ouais, ouais. C'est exactement ça. Il est cet homme pour qui, comme beaucoup de Français, je pense, ou d'Européens, j'ai eu de la sympathie parce que quand il parlait de glasnost, de perestroïka, etc., on se disait peut-être il y a une chance qu'il fasse évoluer. Bon, il est arrivé trop tard dans l'histoire. Il est arrivé peut-être 10, 15, 20 ans trop tard. Et à partir de là, l'Empire... Ce qui fut l'Empire était miné, les termites étaient, la nouvelle version des termites était à l'intérieur, et Reagan, avec sa politique des étoiles, a soufflé là-dessus, et l'Empire s'est effondré, et Gorbi avec.
C'est sûr que c'est un homme qui n'a pas été jusqu'au bout de son destin, il a été emporté par des forces plus importantes qu'il avait lui-même déclenchées. D'un autre côté, on lui sera toujours reconnaissant quand même, quelque part, d'avoir déclenché ces forces-là, d'avoir arrêté...
En s'abstenant de faire quoi que ce soit la nuit où tombe le mur de Berlin.
Et d'être au fond le contraire de Poutine. Voilà, parce que c'est vraiment place pour place, quand on compare les deux, on se dit que finalement, peut-être, on aurait préféré Gorbatchev.
Oui, à partir du moment où la réunification de l'Allemagne était actée, lui, il a cru qu'on pouvait en rester là et que l'aspiration des autres peuples, des Lituaniens, c'est tout ça, eh bien, resterait toujours dans le giron. Même l'Ukraine, il ne voulait absolument pas qu'elle soit indépendante. Et il l'a regretté, cette indépendance-là. Mais il avait lancé un mouvement qu'il n'a pas su contenir. Et je veux dire... Vladimir Poutine là, devrait reconnaître que lui, qu'il n'était pas celui qui a favorisé
Charles Villeneuve.
Oui, enfin, pour les Russes, c'est un syndic de faillite.
Voilà.
Il a présidé à la destruction de l'Empire. Et pour le monde occidental, c'est l'homme qui a présidé au démantèlement d'un système totalitaire sans effusion de sang. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dernièrement, alors qu'il commençait à être affecté par la maladie, il a rencontré l'un de ses conseillers français, qui pendant 2 ans était son conseiller économique, et il lui a raconté quelle était la remarque des professeurs à l'école du KGB sur Poutine. Et cette notation, Vladimir Poutine, cet officier ne mesure pas la conséquence de ses actes. Et c'est assez intéressant.
Et ce sera le mot de la fin, alors qu'on enterre Gorbi. Merci beaucoup aux Grandes Voix. Bonjour à Laurent Mariotte.
Bonjour Pierre de Villeneuve et bonjour les Grandes Voix.
Vous nous avez préparé du borsch et des pirochki alors
Presque, non. On va être plutôt ambiance salade de melon, tomate, steak haché pour la rentrée avec Yves Candebord et Ophélie Neyman. José Garcia va nous retrouver. On va prolonger la conversation qu'on a eue avec Michel et Gérard dans l'ascenseur. Il y aura du rosé.
Ah ben voilà, ils arrivent alors du coup. Je vous les laisse.
À tout de suite.
Salut.